Et puis nous voulons maintenant réviser les 10 commandements. Nous allons considérer le 9e. Mais le premier commandement, c'est quoi? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, ça fait avec quoi? Les idoles. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Des choses dans le ciel, sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre. Et voilà, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Et puis nous arrivons au troisième commandement. Donc, pas d'autre Dieu, pas d'idole. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prend son nom en vain. Et puis nous arrivons donc au quatrième commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà, 6 jours, tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est mis à part et sanctifié pour le Seigneur. Et puis, 5e commandement, ce commandement qui fait un peu le pont entre les 4 premiers qui parlent de Dieu et les 5 derniers qui parlent de notre prochain. Et c'est honore ton père et ta mère. Et puis 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, allez-y, c'est quoi? Tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas, tu ne voleras point. Et puis 9e commandement, on va le voir tout à l'heure. Et 10e commandement, le dernier, que nous allons voir demain soir, Dieu voulant, avec le pasteur Barnes, tu ne convoiteras point. Voilà, donc on va reculer d'un commandement. Nous arrivons au 9e commandement, c'est en Exode chapitre 20 et verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton frère. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton frère. Et je crois qu'il y a une suite logique entre le 8e et le 9e. L'abus d'un frère par le vol, hein, ce qui interdit le 8e commandement, était semblable maintenant à le violer en portant un faux témoignage contre lui. On peut le violer en prenant de ses biens ou en s'attaquant à sa réputation. Et si vous regardez bien, la formulation technique et spécifique suggère un cadre juridique ou judiciaire dans lequel une affaire concernant un crime ou un délit est jugée. Et donc il dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère. Donc, les témoins étaient essentiels, comme encore aujourd'hui, hein, pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de quelqu'un, mais il fallait bien sûr que les témoins qui étaient appelés pour rendre témoignage disent la vérité de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles ont vu. Et en faire moins pourrait inculper l'innocent et lui faire subir une erreur judiciaire qui porterait gravement à atteint à ses libertés, à ses biens, peut-être même à sa vie. Et donc c'est un appel à l'intégrité. Proverbe 10, verset 9, dit « Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance, mais celui qui prend des voies tortueuses, donc ce serait le contraire, sera découvert. » Alors, je vais suivre un peu le schéma qui a été suivi par mes frères cette semaine. Et on va considérer d'abord la motivation qui sous-tend le commandement. Quelle est la motivation derrière ce que Dieu dit ici? Et vous pouvez, j'imagine, imaginer avec moi ce que serait la réponse. D'abord, c'est afin de refléter le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Et comme il dit, je suis saint, donc soyez saints parce que je suis saint, ici il va dire, vous dites la vérité parce que moi je suis un Dieu de vérité. C'est mon caractère. Nombre, le livre de Nombre 23, verset 19, nous dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas ?» Et puis Tite, chapitre 1, verset 2, nous parle du Dieu qui ne ment point. Et en Hébreux 6, verset 18, nous lisons « Il est impossible que Dieu mente. » Et oui, il y a des choses qui sont impossibles à Dieu, pas parce qu'il manque de force ou d'intelligence, mais parce que ces choses sont contraires à son caractère. Et il est impossible que Dieu mente. En tant qu'un Dieu de vérité, donc Dieu déteste le mensonge. Proverbes chapitre 12, verset 22 nous dit « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Ou encore en Proverbes 11, verset 1, « La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. » Voyez ce contraste entre ce qui est agréable à Dieu et ce qui est une horreur pour lui. Le mot « est en horreur », ça fait référence à des choses que Dieu trouve détestables et qu'il considère comme des abominations. Ailleurs, le mot est utilisé pour condamner les sacrifices immoraux, en Exode 8, 26, la perversion sexuelle grossière, comme en Lévitique 18, verset 26, ou encore l'idolâtrie. Donc vous voyez, le mensonge est vraiment quelque chose que Dieu déteste, parce qu'il est un Dieu de vérité. Proverbe 20, verset 23 dit « L'Éternel a horreur des poids truqués, les balances faussées lui déplaisent. » Proverbe 16 dit, verset 11, « L'Éternel veut des balances et des plateaux justes, et les poids, il en fait son affaire. » C'est important pour Dieu, même dans l'entreprise, même dans le monde de travail, que nous soyons des personnes intègres et justes et honnêtes. Les Écritures démontrent à maintes reprises que Dieu se soucie profondément de l'éthique, même dans le monde de travail. Et pour Dieu, les pratiques commerciales contraires à l'éthique ne sont pas des questions d'indifférence ou de léger mécontentement, mais en effet, Dieu leur réserve son plus grand outrage moral. Il a ces choses en horreur parce que ce sont des mensonges. Et 1 Corinthiens 13, verset 6, dit de l'amour, il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Ou une autre traduction le donne ainsi, l'injustice la triste, je parle de l'amour ici, mais la vérité le réjouit. Pourquoi? Parce que Dieu est comme ça. Ça, c'est le caractère de Dieu. C'est être comme Dieu. Donc, la motivation donc, qui sous-tend, qui motive ce commandement, c'est de pouvoir refléter le caractère de Dieu. Nous avons été créés dans son image pour refléter son caractère. Et la deuxième motivation concerne pas Dieu, mais l'homme. Et on peut le dire ainsi, pour préserver la réputation d'autrui, pour préserver la réputation de mon prochain. Le huitième commandement est là pour protéger la propriété de l'autre, et le neuvième est là pour protéger la réputation de l'autre. Et nous pouvons porter préjudice à quelqu'un par des mensonges, ou des accusations non fondées, ou par médisance, ou par des moqueries. Et nous pouvons le calomnier ou déformer la réalité lui concernant et mentir et donc porter atteinte à la réputation de notre prochain. C'est violer ce commandement. Et tout comme nous devons protéger le bien du prochain, nous devons aussi protéger sa réputation. Calvin, donc il y a 500 ans, a dit ceci, rares sont les personnes qui ne sont pas fortement atteintes par cette imperfection, puisque tout le monde est enclin à éplucher et faire ressortir les défauts d'autrui. Voilà, il dit, on a tous ressenti le mal que quelqu'un a fait contre nous, parce que tout le monde est enclin à faire ressortir les défauts d'autrui. Et donc Colossiens 3, versets 8 et 9 nous disent, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous voyez, tout cela va ensemble. Ce qu'on dit des autres est contrôlé par ce neuvième commandement. On fait parfois plus de tort à notre prochain, quelqu'un dit, par un mensonge, que par un vol. Donc ça, c'est les motivations. D'abord, Dieu, pour refléter le caractère de Dieu, et puis envers l'homme, pour protéger la réputation de mon prochain. Jésus lui-même a résumé tous les commandements, mais on peut résumer ce commandement en disant, c'est aimer Dieu, donc on veut refléter son caractère, et c'est aimer notre prochain, donc on veut protéger sa réputation. Alors, deuxième chose, c'est quelles sont les manières de mentir? Quelles sont les manières de mentir? Je veux juste mentionner plusieurs parce que j'étais frappé en pensant à ces commandements au psaume 1 qui dit que l'homme qui est heureux, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite jour et nuit. Donc la loi parle de toute la Bible, mais elle parle aussi de la loi morale de Dieu et nous devons méditer ces commandements. Qu'est-ce que nous pouvons trouver en méditant ce neuvième commandement? Eh bien, des manières de mentir, c'est des commérages, des ragots, comme on dit, un colporteur, des ouï-dire ou des rumeurs. Voilà pourquoi l'importance sur des témoins que nous trouvons dans la Bible, on ne pouvait pas accuser quelqu'un, il fallait au moins deux ou trois témoins, des gens qui ont vu quelque chose, parce que des rumeurs souvent sont tordues, et quand nous devenons colporteurs des rumeurs, ce qu'on a entendu dire de quelqu'un d'autre, et nous on le fait avancer, propager, c'est rare que c'est exactement la vérité lui concernant, et donc nous participons à un mensonge concernant cette personne, et nous violons ce commandement. Une autre manière de mentir, c'est de tricher. Tricher, c'est, selon le dictionnaire, ne pas respecter, dans certaines circonstances, les conventions, les usages qui s'y attachent, en feignant néanmoins de s'y conformer. En feignant néanmoins de s'y conformer à ces conventions. Et feindre veut dire présenter comme réel des sentiments ou des comportements qui n'existent qu'en apparence, c'est-à-dire mentir. Tricher, c'est mentir. Et on apprend vite à le faire à l'école, n'est-ce pas, les enfants? Selon un article dans Le Figaro, plus de 70% des étudiants français, ils parlent des élèves hein, en maternelle et puis au collège et lycée, avouent avoir triché lors de leur scolarité. Et il y a beaucoup de façons de tricher, mais ça, en somme, c'est un mensonge. Et c'est violer le commandement que Dieu lui-même a donné. On peut facilement aussi mentir en se justifiant. Nous sommes tous très bien à pratiquer la justification de soi. Et dès que quelqu'un nous accuse, on commence à se justifier, n'est-ce pas? Et très souvent, même sans le savoir, sans le considérer en tout cas, nous commençons à mentir. Proverbe 26, versets 18 et 19 dit « Comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui, tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite, c'était pour plaisanter. » Ah, vous voyez, il fait quelque chose et après, il est attaqué, il est accusé, il dit, ah, c'était pour plaisanter. Ce n'était que, c'était une blague. Ou on est porté facilement à dire, ah, je ne savais pas, tu ne me l'as pas dit, je n'ai pas entendu. Hein, vous les enfants, vous savez toutes ces excuses qui, si on y réfléchit, se sent en fait des Mensonge. La justification de soi nous apporte très souvent à mentir. Et ne soyez pas trop inquiets, les enfants, parce que les adultes savent très bien le faire aussi. Hein. J'étais fatigué ou... voilà, on invente tous les jours des excuses, mais une excuse qui n'est pas la réalité est en fait un mensonge. Et sans le réaliser, nous mentons et nous violons le huitième commandement. Nous pouvons aussi mentir en fraudant, frauder. Proverbe 20, verset 14, il parle d'un acheteur, il dit « Mauvais, mauvais !» dit l'acheteur. Et s'en allant, il se félicite. Hein? Donc quand il essaie de négocier le prix, ça vaut rien. Et en fin de compte, il est en train de mentir, même sur ses propres estimations du bien, hein, pour pouvoir faire baisser le prix. Et puis il s'en va et il vante même de ce qu'il a pu acquérir. J'ai lu une fois dans Le Parisien que la fraude fiscale était le sport national des Français. Alors, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que j'ai lu. Et c'est très pratiqué. La fraude fiscale, c'est voler, mais c'est aussi mentir. Les deux choses vont d'ailleurs souvent ensemble. Et puis, encore un moyen que nous mentons souvent, c'est par flatter. C'est la flatterie. Proverbe 29, verset 5, dit « Un homme qui flatte son prochain tend un filet sous ses pas. » Et on peut flatter quelqu'un sans être vraiment sincère. On veut quelque chose derrière. Ça, c'est le mensonge. Et nous pouvons faire cela parfois sur le plan spirituel. En hésitant à dire la vérité par peur d'être rejeté, comme ces prophètes qui disaient, Jérémie parle d'eux, ils disaient « Paix, paix !» quand en fait il n'y avait pas de paix. Ils disaient un mensonge pour se faire aimer. Et c'est très facile aussi de faire pareil. Alors, comment combattre maintenant le mensonge? Nous avons parlé de la motivation qui sous-tend, nous avons parlé des différentes manières de mentir. Et puis finalement, comment combattre le mensonge? Et il faut connaître la vérité. Il faut connaître la vérité. Éphésiens 6, verset 14 dit « Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture. » Donc, pour pouvoir bien se tenir, il faut avoir comme ceinture, imagine hein, l'armure donc, du chrétien, et sa ceinture, c'est la ceinture de la vérité. Et Jean 8, 32, Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, ou la vérité vous rendra libre. » Donc, c'est pour se libérer de mensonges et pour se libérer de pratiquer le mensonge, il faut connaître la vérité. Et je vais dire deux choses par rapport à la vérité. Connaître la vérité, c'est connaître la parole qui est la vérité. Jean 17, verset 17, Jésus prie et il dit « Sanctifie-les par ta vérité » et puis il dit ceci, « Ta parole est quoi ?» La vérité. Donc connaître la vérité, c'est connaître la parole qui est la vérité. Jésus avait déjà dit, comme je viens de citer en Jean 8, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez alors la vérité et la vérité vous affranchira. Tout cela si vous demeurez dans mes paroles, dit Jésus. Et la Bible est appelée en 2 Timothée 2, 15, la parole de la vérité. Jacques, chapitre 1, verset 18, nous dit, parlant de Dieu, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Et le psaume 119, verset 160, dit, ta parole dans sa totalité est vérité. Et c'est pourquoi le psalmiste prie dans le psaume que nous avons chanté tout à l'heure, Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité. Le psaume 25, versets 4 et 5. Et Éphésiens 1, verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu, écoutez cette phrase ici, après avoir entendu la parole de la vérité. Et puis c'est quoi? Juste après, virgule, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc l'évangile est appelé dans la Bible la parole de la vérité. L'évangile veut dire bonne nouvelle, mais nous voyons aussi que c'est une vraie nouvelle, c'est une véritable nouvelle. Et connaître la vérité, c'est connaître la parole qui est la vérité. Et puis deuxièmement, c'est connaître la personne qui est la vérité. Ou c'est connaître celui qui est la vérité. Jean 1, 14 dit que la parole a été faite chair. Il parle ici de l'incarnation de Jésus, sa naissance et sa venue sur terre. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et quelques versets plus tard, le verset 17, il dit « La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Et vous connaissez, j'imagine, ce que Jésus dit à Thomas en Jean 14, verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin et je suis quoi ? Je suis le chemin, la vérité ». Et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous ne connaissez pas encore la vérité. Jean 16, verset 13, quand le Consolateur sera venu, et puis il appelle le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Jésus est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité. Dieu est un Dieu qui ne ment pas, on a déjà cité ces versets. Jean 18, verset 37, Pilate parle à Jésus, donc c'est juste avant sa mort, et Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Et Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » C'est comme ça que Jésus, juste avant de mourir, voit sa propre vie, son ministère, pour rendre témoignage à la vérité. Et puis il dit à Pilate, « Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Et vous savez peut-être la triste réponse de Pilate qui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Comme si c'est quelque chose qu'on ne peut pas trouver. Mais Jésus a dit bien, « Je le suis. » Quand vous trouvez Christ, vous trouvez réellement la vérité. On ne peut pas vraiment vivre dans la vérité tout en ignorant la parole de vérité et celui qui est la vérité. Parce que toutes les autres choses sont en fait des mensonges. Donc il faut connaître la vérité et puis deuxièmement, il faut pratiquer la vérité. Qu'est-ce que je veux dire par pratiquer ou vivre la vérité? Eh bien, il faut croire et suivre la vérité. Ça, c'est une chose. Il faut croire et suivre la vérité. Il faut pas faire comme Pilate. Qu'est-ce que c'est la vérité? Il faut suivre celui qui est la vérité. Il faut se donner à celui qui est la vérité. Il faut le recevoir. Il faut l'accepter comme vrai. Il faut pouvoir dire Amen. Le mot Amen, c'est comme si nous, on donne notre propre témoignage au témoignage que Dieu lui-même rend dans la parole de Dieu et nous disant, c'est véritable, qu'il soit ainsi, je crois, je confesse de ma bouche que ces choses sont vraies. Jean 4, verset 24, Jésus parle, il dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, c'est venir à Christ et à Dieu dans la vérité quand nous croyons, quand nous acceptons ce qu'il nous dit comme véritable et quand nous recevons Christ qui est la vie, la vérité et le chemin. Et puis, il faut dire la vérité aussi. Pas simplement croire et suivre la vérité, mais il faut dire la vérité. Éphésiens 4, verset 25 dit « C'est pourquoi renoncer aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Il avait dit juste quelques versets auparavant, verset 15, « disant la vérité avec amour. Il faut dire la vérité. Zacharie chapitre 8, verset 16, Dieu parle et dit, voici ce que vous devez faire, que chacun dise la vérité à son prochain. Il faut pratiquer la vérité. Et puis, si je peux terminer juste en appliquant très spécifiquement cela. Troisième façon, donc on a dit il faut vivre, enfin il faut croire et suivre la vérité, il faut dire la vérité, mais troisièmement, pour une application spécifique, une façon de dire la vérité, c'est de confesser nos péchés selon la vérité. C'est quelque chose où j'étais vraiment convaincu de mon propre péché ici. Proverbe 28, verset 13 dit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue les délaisse et obtient miséricorde. » La Bible dit que heureux est celui qui pleure ses propres péchés. Donc on ne fait pas d'excuses. Quand on fait d'excuses, on minimise le péché. Et on termine par dire un mensonge contre notre propre péché. On est en train de dire, mon péché n'était pas si grave que cela. Ou ce n'était pas vraiment ma faute, donc je ne suis pas vraiment responsable de ma faute. Donc, en fin de compte, ce n'est pas vraiment un si grave péché devant Dieu. Et donc, on termine par se justifier. J'ai lu l'histoire tout récemment de Saül devant Samuel, et il vient d'offrir un sacrifice qu'il n'aurait jamais dû faire, et il dit à Samuel, mais tu n'es pas venu à l'heure, et puis les soldats, ils m'ont forcé à le faire, il fait des excuses, il crée des excuses pour minimiser son péché, mais celui qui vient vraiment à Dieu ne minimise jamais son péché. En fait, dans un sens, il veut voir le péché dans toute sa laideur, dans toute sa corruption, dans toute son iniquité, pour pouvoir après recevoir le pardon. Et ces deux hommes qui sont allés au temple, il y avait un qui disait « Ah, je suis juste, merci Dieu que je fais ceci ou cela », et puis l'autre, il ne pouvait même pas lever la tête au ciel, il disait « Mais Dieu soit compatissant, et pitié, soit propitié littéralement, sur moi un pécheur ». Et Jésus dit, c'est celui-là qui est allé justifier. Pourquoi? Parce qu'il a dit la vérité concernant son propre péché. Alors la loi de Dieu est comme une lumière. On a parlé de ça dimanche, il y a deux semaines. Dans deux sens. Elle est comme un spot qui éclaire notre propre péché. Et si nous venons à Christ, nous devons accepter que la lumière tombe sur nous et nos péchés. Jésus disait en Jean 3 que ceux qui ne croient pas, ceux qui font le mal, aient la lumière, et ils ne viennent pas à la lumière de peur que leur péché soit dévoilé. Vous voyez, mais un pécheur repentant, il vient à la lumière pour que ses péchés soient dévoilés. Il prend la loi de Dieu, donc tu ne mentiras pas, et il accepte, Seigneur, je suis pécheur, j'ai transgressé ta sainte loi. Le péché vainqueur règne en moi. Et puis, par amour pour Dieu, la loi devient une lampe, comme dit la Bible, une lumière sur son sentier, une lampe pour ses pieds, pour le diriger à suivre la voie de Dieu. Ça, c'est la loi. D'abord, un spot sur nous pour nous révéler tels que nous sommes, et nous acceptons cela. Et puis, une lumière pour nous guider à savoir comment plaire à Dieu. Que nous puissions méditer la loi de Dieu, méditer ce commandement et laisser la loi de Dieu agir dans nos vies dans ces deux sens. Comme un spot pour révéler sans excuse nos péchés et puis comme une lumière sur notre sentier pour nous guider afin de pouvoir plaire à Dieu. Prions. Ô notre Père Céleste, nous te louons que tu es un Dieu de vérité, que tu ne peux pas mentir, et donc tout ce que tu dis est fiable, et que nous pouvons nous tenir aux seules promesses que tu nous as faites, et entrer même dans l'éternité, faire face même à la mort sans crainte, car nous savons que nous, en qui nous avons cru et que, qu'il est fidèle pour nous garder jusqu'à dans l'éternité. Et nous confessons que nous-mêmes, nous ne sommes pas des hommes et des femmes et des enfants fidèles, que nous avons souvent même dit des mensonges, nous avons souvent truqué la vérité pour notre propre bénéfice. Nous nous sommes souvent justifiés, même en tordant la vérité de nos péchés. Et nous voulons confesser ces choses et demander ton pardon. Seigneur, que tu entres dans la conscience de chacun qui écoute ce soir et que tu révèles par ton esprit tout notre péché, mais non pas pour nous porter au désespoir, mais pour nous amener à la repentance. Et par la repentance et la foi à la vie éternelle. Que tu fasses une belle œuvre dans nos vies pour ta gloire et pour notre bien. Amen. Merci pour votre écoute et que Dieu vous bénisse.